Dis-le-moi que ton goût est saison avec les nerfs.
Bonsoir. Le président américain Barack Obama a promulgué la semaine dernière une loi contre les minerais de sang en RDC. Cette loi exige que les compagnies dont les produits contiennent de la cassiterite, du coltan, de l'or précisent les mesures qu'elles ont prises pour éviter que ces minerais proviennent des groupes armés congolais. Quelles sont les grandes lignes de cette loi et que va-t-elle changer dans la lutte contre les minerais de sang? Nos invités dans cette émission sont Paul Mabolia-Yenga, coordonnateur du projet d'appui au secteur minier promis, une structure qui dépend du ministère des Mines du gouvernement central. Monsieur Mabolia, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
François Nzikouye, analyste économique et expert en environnement. Monsieur Nzikouye, bonsoir.
Bonsoir, Alain Irunga.
Daniel Balint, Turki, membre de Global Witness, chargé de campagne en RDC, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Les réactions des auditeurs nous sont déjà parvenues. Pascal Waminia de Bukavu Sud-Kivu, cette initiative du président Obama est vraiment géniale, d'autant plus qu'elle permettra aux pays qui regorgent de ressources naturelles, les RDC en particulier, de bien identifier les gens qui profitent des troubles pour piller et exporter les minerais qu'ils ne produisent même pas. Maître Arnold Nyaluma Mulangano de Butembo, Nord Kivu, je comprends bien l'enthousiasme des Congolais et du gouvernement, mais deux questions méritent d'être posées. La première, en vertu de quelle loi le Parlement américain légifère sur le territoire congolais? Et la deuxième, comment empêcher que cette mesure ne profite aux pays voisins qui vont vendre librement des produits frauduleusement importés du Congo? Nous sommes mardi 27 juillet 2010. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 678 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Les groupes armés, leurs chefs et les entreprises prédatrices des richesses minières congolaises bientôt coupées des vivres. La réforme de Wall Street promulguée par le président américain Barack Obama mercredi dernier contient une disposition dans ce sens. La mesure insérée dans ce document prévoit de tenter d'enrayer le commerce de cartes minerais utilisées notamment pour la fabrication des téléphones cellulaires. Quelques éléments de cette loi avec vous, Kéline Côté.
Cette loi de 2500 pages appelée Financial Reform Act est une disposition qui concerne les minerais de la RDC. Elle oblige aux entreprises de publier leurs revenus ainsi que les paiements fiscaux qu'elles adressent au gouvernement du monde entier. Cette loi exige aux compagnies dont les produits contiennent de la cassiterite, du coltan, de la wolframite et de l'or qu'elles fassent savoir à la Securities and Exchange Commission si elles se procurent ces minerais en République démocratique du Congo ou dans un pays voisin. Les compagnies se devront de préciser les mesures qu'elles ont prises pour éviter que ces minerais proviennent des groupes armés congolais coupables des massacres et d'autres atrocités. La loi requiert que toutes les informations divulguées fassent l'objet d'un audit indépendant. Pour Global Witness, ces dispositions représentent une grande victoire pour la responsabilité d'entreprises dans les secteurs pétrolier, gazier et minier. Global Witness salue aussi le leadership dont ont fait preuve les membres du Congrès qui ont assidûment plaidé en faveur de cette initiative.
Merci Kevin Kouté, Paul Mabolia Yenga. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du projet d'appui au secteur minier promis, une structure qui dépend du ministère des Mines du gouvernement central. Comment vous avez accueilli la promulgation de cette loi?
Merci. Pour nous, ce n'est pas une surprise puisque nous avons été au courant de cette loi depuis un certain temps. Alors cette loi, comme a dit la madame qui a parlé tantôt de 2500 pages, contient des dispositions en ce qui concerne donc la RDC, entre autres. Et la première disposition, c'est qu'elle oblige toutes les compagnies américaines, autant minières, pétrolifères que gazières, de divulguer, de renseigner au SEC, au Securities and Exchange Commission, toutes les recettes qu'elle génère, ainsi que les paiements fiscaux qu'elles font auprès des gouvernements du monde entier. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. En fait, ici, on fait un peu litigieux comme nous faisons ici en RDC. Donc, publiez ce que vous payez. Et l'autre disposition, comme on l'a encore dit ici, concerne maintenant les minarets de conflit qui viennent de la RDC. En soi, puisqu'il s'agit ici d'une disposition qui veut aider donc le peuple congolais et les personnes qui sont concernées dans cette région, c'est une bonne mort. Mais comme on dit toujours, le diable se trouve toujours dans les détails. Nous allons voir, nous devons voir, nous le gouvernement congolais, en quelle mesure cela ne heurte pas donc la population, de quelle mesure cela ne diminue, si vous voulez, nos activités minières légales, parce qu'il y en a. Donc tout le pays n'est pas, tout l'Est n'est pas fait à 100, il y a quand même plusieurs zones, et il y a aussi plusieurs initiatives qui ont été engagé par le ministère des Mines. Nous reviendrons là-dessus, évidemment.
Alors, Paul Mabolia, je reviens sur cette réaction de Maître Arnold Nyaluma Mulangano que j'ai lu tout à l'heure. Hein. Il dit en vertu de quelle loi le Parlement américain légifère sur la RDC.
Le Parlement américain n'a pas légiféré sur la RDC. Le Parlement américain a légiféré sur les compagnies américaines. Elle oblige les compagnies américaines à se conformer à certaines dispositions, notamment aux gendarmes de la bourse qui est appelé pour informer donc les gendarmes de la bourse de ce qu'elle fait. Donc en soi, ça ne concerne pas la RDC, ça ne concerne pas les compagnies en RDC. Mais par contre, il y a une des dispositions dans lesquelles nous travaillons, c'est ce qu'on appelle quelles sont les mesures que ces compagnies doivent prendre pour s'assurer que ces minerais ne viennent pas de zones de conflit. Et là, c'est ce qu'on appelle la diligence raisonnable, et le gouvernement de la RDC, à travers le ministère des Mines, est associé donc dans la rédaction avec les experts des Nations Unies, avec la FEC et d'autres organismes dans la rédaction de ce qu'on appelle la diligence raisonnable.
Alors, avant de donner la parole à Daniel Balint-Kerti, membre de Global Witness, chargé de campagne en RDC, qui est déjà en ligne, comme me le signale la réalisation, il y a Madame Corina Gilfilan de Global Witness, Paul Mabolia, qui a déclaré, je cite, « En plus d'aider la population des pays pauvres, bien que riches en ressources, ces dispositions serviront les intérêts gouvernementaux et commerciaux américains à travers le monde en promouvant la stabilité et les investissements d'entreprises responsables. Servira d'abord les intérêts américains. Mais ne sommes-nous pas en train là d'aller dans une trop grande euphorie ?
Mais
pour rien.
L'euphorie n'est pas chez nous. C'est-à-dire que, comme vous dites, c'est d'abord les intérêts américains. Nous sommes la partie congolaise, nous devons regarder les intérêts de notre population, les intérêts de ceux qui payent des taxes, de ceux qui vont donc dépendre, si vous voulez, de l'exploitation de cette ressource. Et donc nous disons qu'il ne faut pas qu'il y ait des dommages collatéraux. On veut produire quelque chose de bon, mais en réalité, ça nous pose plus de problèmes. Est-ce que nos produits, à ce moment-là, ne vont-ils pas devenir, moins compétitifs, étant donné que le coût supplémentaire qui est fait, où il faut commencer à faire plein de papiers, font que les gens vont tout simplement aller en Bolivie, au Pérou ou ailleurs. Donc, pour nous, le gouvernement, nous devons d'abord nous assurer que toutes les initiatives que nous prenons dans la traçabilité soient bien comprises et bien acceptées dans le système, qu'il n'y ait pas un effet contraire. On veut améliorer la situation, c'est ça à quoi nous tendons, et donc il ne faut pas heurter ou casser quelque chose qui est en si bonne voie.
Daniel Balint-Kerti, vous êtes en ligne?
Oui.
Bonsoir. Global Witness, on l'a suivi dans le reportage de Kelly, notre consoeur a salué cette loi, mais est-ce une loi réaliste?
Est-ce que ça va aller? Je crois que oui, je crois que c'est une très bonne chose. C'est important que les consommateurs des minéraux à l'Occident prennent leurs responsabilités et s'assurent que qu'ils achètent du Congo ne financent pas les groupes armés à l'est du pays. C'est depuis longtemps que les groupes armés au Congo sont financés par les mines, par les minéraux. Et maintenant, on a une chance de casser le cercle vicieux des minéraux de conflit.
Alors, Vous l'avez suivi tout à l'heure, hein, Paul Mabolia Yenga, qui disait qu'en fait, cette loi posait beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résolvait.
Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Je crois que M. Mabolia disait qu'il y a un danger que ça se passe comme ça, mais pour moi, c'est la première occasion que vraiment une grande puissance économique a pris ses responsabilités et a fait des efforts pour que les minerais du conflit n'entrent pas dans son pays, dans la chaîne d'approvisionnement de ses sociétés. C'est un très grand pas. Et c'est depuis des années que le Conseil de sécurité des Nations Unies a dit qu'il faut faire quelque chose pour adresser cette question des minerais du conflit. Maintenant, quelque chose est fait. Et la première réaction du gouvernement congolais, c'était de saluer la loi. Et je crois que c'est la position officielle. Et que c'est quelque chose qui est bien vu par le gouvernement congolais.
Alors, il est aussi dit, hein, dans cette loi, cette disposition, vous l'avez, en saluant cette loi, dit que ces dispositions représentaient une grande victoire pour la responsabilité dans l'entreprise, dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers. Comment cela?
Oui, il y a les deux dispositions. Il y a la disposition de la loi qui concerne la transparence des revenus de l'industrie extractive, qui concerne le pétrole et le gaz. Et là, des sociétés doivent déclarer tout ce qu'ils paient au gouvernement, partout dans le monde, toute société qui fait du commerce aux États-Unis, doit dire ce qu'il fait au gouvernement. Et ça réduit beaucoup les occasions pour corrompre les individus dans le gouvernement. C'est un très grand pas. Et puis, il y a aussi une disposition séparée qui parle des minerais de conflit. Et encore, c'est un grand pas pour la transparence, parce que maintenant, les sociétés qui utilisent et qui achètent ces minerais doivent exactement d'où ils ont acheté ces minerais. Et les rapports des Nations Unies, les rapports de Global Witness et autres ont détaillé beaucoup de le commerce de beaucoup de sociétés et leurs liens avec les groupes armés à l'est du Congo. Jusqu'à maintenant, ils n'ont fait pratiquement rien. Maintenant, ils sont obligés de faire quelque chose.
Daniel Barit Kursi, a un auditeur, Malonga Kubali de Bandundouville, qui dit est-ce que la loi promulguée par le président américain concerne uniquement les minerais congolais et pourquoi?
Il y a les deux lois. Il y a la loi sur la transparence en effet extractive et ça concerne toutes les sociétés. C'est pas seulement le Congo. C'est une loi qui s'applique à tout le monde, à tous les pays. Maintenant, il y a une mesure spécifique qui parle des minerais du conflit du Congo. Et là, oui, là, c'est seulement sur le Congo, évidemment. Et la raison pour ça, c'est qu'on croit qu'il y a une situation particulière où il y a des mines contrôlées par les groupes armés. Ces mines financent les groupes armés, les groupes qui commettent beaucoup d'abus de droits humains. Et ces minerais sont utilisés, sont achetés aux États-Unis. Et le public américain et les sénateurs et les législateurs ont trouvé qu'il faut faire quelque chose, il faut adresser ce problème. C'est un problème bien spécifique. Peut-être plus tard, s'il y a d'autres cas pareils, le même genre de loi peut être appliqué à ces cas.
François Zécouillé, vous êtes analyste économique et expert en environnement. Est-ce que les États-Unis font tout ça pour les bons yeux des Congolais?
Je doute malheureusement que ce soit pour les beaux yeux des Congolais et encore moins pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Les textes paraissent très bons, parce que d'abord, les textes d'ordre général, la Financial Reform Act, elle est bonne dans ce sens qu'elle permet la transparence dans tous pour toutes les entreprises qui sont dans le domaine extractif. Mais les problèmes qui vont malheureusement se poser pour ce qui concerne l'article ou les aspects concernant la République démocratique du Congo, où on demande aux entreprises de s'assurer que les minerais qu'ils utilisent dans leur industrie ne proviennent pas des personnes armées, c'est la question de la vérification. Comment une industrie basée aux États-Unis va savoir que la cassiterite qui lui a été vendue à partir du Rwanda en provenance de la République démocratique du Congo vient des groupes armés? Ça, c'est la première grande question qu'il faut se poser.
Sur la traçabilité.
Voilà, la traçabilité, le mécanisme de traçabilité risque d'être très difficile à réaliser et risque d'alourdir le processus de vente de nos minéraux, au Kivu particulièrement. Et avant de pouvoir vous donner d'autres arguments par rapport à la question, on est quand même surpris de nous rendre compte que c'est dans une période où on assiste à une certaine accalmie dans la région des Grands Lacs, que cette décision vient d'être prise pour pouvoir faire pratiquement une espèce d'embargo sur nos minéraux. Pendant que les CNDP étaient en train de l'utiliser ou d'autres mouvements armés, on n'a rien fait pour pouvoir arrêter ces ventes de minéraux qui, effectivement, à ce moment-là, étaient véritablement des minéraux de sang. Moi, je rentre du Kivu, j'étais à Goma, je suis rentré de là jeudi passé. J'ai été à Rutshuru voir les moines Mindezi, j'ai voyagé notamment, il n'y a pas eu le moindre incident tout au long de la route. Aujourd'hui, à Walikale, d'où vient la cassiterite incriminée, on se rend compte que la région est devenue de plus en plus fréquentable et il y a de moins en moins de groupes armés qui existent. En tout cas, si ces groupes existent, ils les font de façon cachée. Et donc, la population aujourd'hui risque d'en pâtir face à cette mesure parce que ça fait des milliers de personnes qui vivent de la cassiterite directement à Walikale, mais aussi tous les intermédiaires, les négociants qui vivent de cela et des comptoirs. C'est toute une économie qui risque d'être, d'une manière, pénalisée. Et vous savez, par exemple, que la province du Nord Kivu, 30% de ses recettes de la vente des cassiterites, donc les taxes qu'il perçoit au niveau de la province du Nord Kivu. Si aujourd'hui on se dit une entreprise par peur d'être sanctionnée par la Security and Exchange Commission au niveau des États-Unis, ils ne peuvent plus accéder à ces minéraux. C'est donc les citoyens congolais, en premier lieu, qui vont en pâtir, et bien évidemment, toute l'économie congolaise qui va souffrir, parce que ce n'est pas seulement au nord Kivu qui a la cassiterite, mais aussi dans le nord Katanga, où c'est exploité de façon intense. Donc, au lieu d'être enthousiaste par rapport à ça, l'idée était bonne à un certain temps, parce qu'on ne doit pas ignorer qu'il y a eu les groupes armés qui se sont financés grâce à ces minéraux, qu'il y a eu des vies humaines qui ont été perdues à cause de cette guerre sur nos richesses, qu'il y a eu des enfants, des femmes et même des hommes qui ont été violés, mais ça c'est du passé. Alors pourquoi devons-nous prendre des mesures concernant le passé et qui vont toucher le présent et l'avenir des citoyens, au lieu par contre de prendre des mesures pour aider les gouvernements congolais à vider ces zones, effectivement, des éléments réduits qui sont encore là, pour que la paix revienne et que l'économie qui est basée sur les mines puisse fonctionner normalement et dans la transparence.
Paul Mabolia, cette loi, comme le dit François Nzekouye, est-elle venue tardivement?
Bon, tardivement, je ne dirais pas, parce qu'il y a quand même des dispositions qui ont été prises par la secrétaire d'État Clinton, qui dit qu'il faudrait travailler, donc on lui recommande de travailler dans les mécanismes, dans les stratégies à mettre en place pour résoudre le problème des conflits à l'Est. Alors, il y a des initiatives qui ont été prises par la RDC, notamment sous l'impulsion du ministère des Mines, plusieurs initiatives pour faire de la traçabilité, si vous voulez, un élément certain qui puisse donner plus de confiance à la communauté internationale. Nous avons le protocole d'accord avec le BGR, donc l'Allemagne, pour la certification dans le site Kivu. Nous avons aussi un protocole d'accord avec l'INPI, qui est en fait l'association qui représente les consommateurs d'étain, de cassiterite, pour la traçabilité dans des zones pilotes qui sont déterminées. Nous avons l'initiative régionale, conférence internationale dans la région des Grands Lacs, où on a développé six instruments pour
s'assurer et, si vous voulez, résoudre le problème des conflits à l'Est. Et nous avons, bien sûr, le dernier, qui est en fait le projet Promine, qui est un projet financé par la Banque mondiale et qui vise, s'il vous plaît, à établir une bonne gouvernance dans le secteur minier en appuyant le secteur minier. Donc, toutes ces initiatives qui sont prises visent à améliorer la situation. Je vous ai dit, l'Est n'est pas assez à fond. Il y a des poches résiduelles, peut-être, d'endroits où on ne contrôle pas, mais il y a des initiatives qui sont prises et qu'il faudrait tenir compte, parce que la situation va en s'améliorant et non en allant en descendant. Donc, si vous voulez.
Alors, il y a Raphaël Loulou de Kinshasa qui dit est-ce que cette loi aura un effet rétroactif pour que l'Ituri et surtout le Maniema puissent s'attendre à être dédommagés, non seulement pour l'or, le coltan et la cassiterie, mais pour leurs enfants morts et pour leur environnement détruit par le fait de ces compagnies, Jean-Paul Paul Mabolia.
Un effet rétroactif, je ne sais pas. Donc, nous, depuis longtemps, nous déplorons le fait que, par exemple, l'or en RDC ne passe pas par le circuit officiel, tout sort en fraude. Mais là, nous avons plutôt une approche au niveau régional. Il faut traiter le problème dans sa dimension régionale. C'est pour ça que le ministère de Mines s'implique corps et âme dans la conférence internationale de la région des Grands Lacs. Il faut essayer de résoudre donc les problèmes qui sont régionaux, pour lesquels nous avons développé plusieurs instruments, par exemple au niveau de la CRGLIA, l'harmonisation des dispositions législatives avec les différents pays en ce qui concerne donc leurs lois minières. Nous avons la mise en place d'une banque de données, donc pour que nous puissions vérifier les statistiques entre les différents pays. Nous avons l'initiative de la transparence dans l'industrie extractive. Nous avons le système de certification qui est en fait le joyau de la couronne et la formalisation du secteur minier. Donc tous ces instruments vont être développés dans un contexte régional pour essayer de résoudre. Donc il y a plusieurs initiatives qui sont faites dans la région pour adresser le problème des conflits armés. Donc nous sommes dans un processus, et le processus prend du temps. Si vous regardez ce qui était en 2007, 2008, 2009, nous sommes dans une situation où la situation s'améliore. Et on espère que tout ça va concourir en fait à améliorer, s'il vous plaît, le climat de l'exploitation minière en est de la RDC.
Alors, vous parliez tout à l'heure des mécanismes, hein, de plusieurs mécanismes pour assurer la traçabilité, mais cette loi américaine, est-elle de trop ou elle vient en complémentarité à tous ces mécanismes que vous avez énumérés?
Non, pour moi, elle vient en complémentarité, dans ce sens que cette loi, c'est de l'autre côté, c'est aux consommateurs que ça s'adresse. Alors, le consommateur, maintenant, puisqu'on lui demande de faire la diligence raisonnable, c'est-à-dire à mettre en place ou à dire comment est-ce qu'il fait, il peut faire jonction avec nos initiatives. Si on lui dit que le produit vient de Nabibou, là, on dira qu'il y a la coopération allemande qui travaille. Donc, c'est vérifiable que ça ne vient pas d'une zone conflit armée. Donc, il n'y a aucun problème. C'est ça que nous disons, toutes ces initiatives vont attester que là où nous produisons et là où nous sommes présents, il n'y a pas, si vous voulez, de conflits armés et que la situation est au demeurant meilleure parce que le système de traçabilité répond à des standards. Et ces standards sont plus ou moins internationaux. Donc il y aura, nous sommes déjà beaucoup plus en avance dans nos initiatives que ce qu'on pense ou l'on dit ou qu'on le voit.
À Kinshasa, par la voix de son porte-parole, Lambert Mende, le gouvernement de la République a salué cette loi et exprimé sa reconnaissance à l'égard de l'exécutif et du législatif américain pour, je cite, « cette noble initiative qui va dans le sens de nos intérêts nationaux ». Fin de citation. On écoute Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, rejoint par Richard Junior Camoun.
Nous pensons que dans la mesure où personne ne peut opérer un trafic, ne peut songer à prendre du minerai pour le vendre s'il n'est pas sûr du débouché final, c'est-à-dire de pouvoir trouver un client qui l'achète, et le client final, ce sont ces industries qui sont soumises aujourd'hui à un contrôle assez sérieux de la part des autorités américaines. Je pense que en regardant les choses sous cette perspective, on se rend compte effectivement que cette loi peut faire beaucoup. Il nous appartient à nous, justement, d'encourager la mise en œuvre de cette loi, de nous y impliquer en renforçant nos propres mécanismes ici, parce que nous y participons aussi pour le diamant, notamment dans le cadre du processus de Kimberley, et pour tous les autres mécanismes de traçabilité.
Alors, Daniel Balint-Kirti, vous venez de suivre hein, le porte-parole du gouvernement congolais. Il appartient au gouvernement congolais de renforcer les mécanismes. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction?
Oui, je crois que c'est très bon, c'est très bon que M. Mondai a salué la loi. Maintenant, oui, qu'est-ce que le Congo doit faire de son côté? Je crois qu'il y a les bonnes initiatives qui sont en place. Si on parle par exemple d'une initiative des centres de négoce, c'est une très bonne chose. Il y a aussi le projet de certification intergouvernementale sur le pays, si on parle de toutes les régions des Grands Lacs. Alors, je crois qu'on devrait continuer de renforcer ces procédures. Le gouvernement américain dit qu'il est prêt à aider avec ces processus et j'espère que tout va dans le même sens, que le champ de manœuvre des groupes armés qui se financent avec les minerais va être beaucoup réduit et que les mines peuvent être mises sous le contrôle des civils. C'est les civils qui doivent contrôler les richesses du Congo et pas les groupes armés. Et c'est ça qu'on va changer. Si les groupes armés restent en contrôle des ressources minières au Kivu, ce serait beaucoup plus difficile de finir dans le long terme avec le conflit. Il y a les mines dans l'Est du Congo, selon nos recherches et les recherches des groupes experts des Nations Unies, qui servent toujours à financer les groupes armés, et y compris ceux qui faisaient partie du FNDP maintenant. Et ils sont partis officiellement de l'armée nationale, mais ils obéissent toujours aux anciens chaînes de commandement et prennent toujours l'argent des mines. Alors, ce sont des problèmes qui devraient être adressés. On a l'impression qu'ils sont en train d'être adressés, mais il faut faire vigilance que ce qu'on dit dans la parole, ça traduit aussi dans l'action sur le terrain.
Alors, vous avez suivi tout à l'heure Françoise Ekouyé qui émettait certaines craintes quant à la vérification, hein, au mécanisme de traçabilité, et il a aussi dit hein, que c'est pour être le peuple congolais qui pourrait supporter les conséquences négatives de cette loi.
Je comprends la peur. Je dirais que c'est une loi positive, que c'est depuis des années qu'il y a ce problème, que les groupes armés luttent pour le contrôle des mines et que les sociétés à l'Occident sont contents d'acheter et d'utiliser ce qui provient de ces mines. Alors il faut qu'il y a des actions comme ce que les États-Unis viennent de faire pour adresser ce problème. Ces problèmes ne seront pas résolus sans une pression. C'est seulement à cause de la pression qui vient des ONG comme le nôtre, qui vient des législateurs qui sont inquiétés par ce problème, qu'il y a eu des avances. Sans cette pression, rien n'aurait été fait. C'est vrai que l'Est est plus calme que ça a été par le passé, mais il y a toujours le conflit à l'Est. Et même dans les zones où c'est plus ou moins calme sur la surface, il y a toujours les groupes armés qui extraient l'argent, qui prennent l'argent des mines et ceux qui travaillent dans les mines. Et si on veut arrêter le cercle de violence au Congo, on doit adresser ce problème. Parce que ceux qui sont apaisés maintenant, c'est pas sûr qu'ils seront toujours calmes dans une année.
François Zekouy, la démilitarisation des zones minières reste une véritable épine hein, dans le pied du gouvernement congolais.
Oui, je crois que c'est une préoccupation, par contre, du gouvernement congolais. Je crois qu'il faut féliciter quand même les efforts que le gouvernement congolais a déployés pour que, aujourd'hui, les gens arrivent quand même à circuler dans ces zones. Parce que, il y a 2 ans, c'était difficile, il y a 3 ans, beaucoup plus difficile. Donc, j'estime que les efforts sont fournis dans ce sens pour arriver à démilitariser les zones minières. Effectivement, ce que M. Daniel Balik vient de souligner par rapport aux anciens militaires CNDP qui sont entrés dans le gouvernement aujourd'hui, on a effectivement l'impression que c'est par là qu'il faut s'attaquer au problème. Parce que ces personnes sont devenues des hommes en armes faisant partie des forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc là, le gouvernement a plus de marges de manœuvre pour pouvoir résoudre les problèmes, d'autant plus qu'il s'agit de ces hommes, de ces généraux, de ces colonels et des hommes de troupes qui peuvent être clairement identifiables. C'est tout un mouvement armé qui en profite, mais des individus qui sont en train d'en profiter. Donc régler un problème d'individu et régler un problème de groupe, c'est un problème bien plus facile que ce que nous avons vécu il y a quelques années. Donc actuellement, nous devons accepter effectivement quelles avancées. Mais comme un des auditeurs a dit, je crois qu'on devrait souhaiter un effet rétroactif. Parce que pendant cette période de guerre, beaucoup d'entreprises ont frauduleusement profité des richesses du Congo sans que les taxes ne soient versées à l'État congolais. Là, c'est des efforts que le gouvernement congolais peut réclamer pour dire, pendant des années, on a pillé nos ressources et ces ressources ont profité à des entreprises bien identifiées. Ces entreprises doivent payer des dommages et intérêts, tant ces entreprises, bien évidemment, que les pays voisins qui ont profité de ces richesses, que les groupes armés ou les individus qui ont été impliqués, qu'on essaie de faire une espèce de panel bis, où on va identifier les individus et les entreprises qui ont profité de nos ressources minières pendant les périodes de guerre, et qu'ils soient pénalisés quand il s'agit des individus qui aillent éventuellement en prison, et quand il s'agit des États qui paient des dommages et intérêts à l'État congolais, où des entreprises doivent aussi également être pénalisées en dommages et intérêts au profit de l'État congolais.
Mais est-ce que, concrètement, François Zekouille, cette loi va-t-elle changer quelque chose dans la lutte contre les minerais de fonderie ici, concrètement?
Oui, je crois que ça va changer quand même quelque chose concrètement. Aujourd'hui, par exemple, si un mouvement rebelle ou un groupe armé se décide de revenir dans cette région, il saura, par exemple, que et on ne pourra pas lui acheter ses minéraux pour qu'en échange, il puisse avoir des armes. C'est certes une avancée de ce point de vue-là, de façon générale. Mais là où moi je dis que le problème va se poser, c'est en termes de mécanismes de traçabilité. Il y avait, comme l'a dit M. Mabolia ici, des initiatives qui sont en cours pour effectivement arriver à trouver des mécanismes de diligence raisonnable. Ces processus devaient elle continue et il y a une rencontre au mois de septembre à Nairobi par rapport à cela pour qu'on arrive à trouver des mécanismes de traçabilité. Ces mécanismes sont voulus et par les entreprises minières ouvrant dans ces zones, au nord Kivu et au nord Katanga essentiellement. C'est voulu par l'État congolais parce que nous avons participé avec M. Mabolia l'année dernière, je crois que c'est au mois de janvier, sur une rencontre sur la relance du secteur minier à l'est du pays. Et donc, c'est voulu par la population. C'est voulu par les autorités, c'est quelque chose qui est voulu par tout le monde, qui a une traçabilité, parce que plus il y aura transparence, plus l'État congolais tirera profit de ses ressources minières, plus les populations locales pourront tirer profit d'une façon ou d'une autre des revenus venant de ces ressources, et plus, bien évidemment, les entreprises qui travaillent dans ce secteur vont se sentir à l'aise de travailler dans une situation où on ne les incrimine pas tout le temps devant des minéraux décents. Donc c'est une situation qui profite à tout le monde et on n'a pas donc intérêt à pouvoir prendre des sanctions aujourd'hui comme s'il y avait des personnes qui étaient intéressées à continuer à faire des pêcheurs à nos troubles.
Monsieur Paul Mabolia Yenga, je rappelle que vous êtes coordonnateur du projet d'appui au secteur minier ProMine, une structure qui dépend du ministère des Mines du gouvernement central. Il y a des auditeurs qui ont leur point de vue. Zia Awadjobo d'Ariwara en province orientale dit « La décision du président Obama est bonne, mais l'exécution sera difficile car les pays voisins sont toujours restés complices. » Philippe Masekado Colusio Katanga, cette loi ne va pas apporter
Grand Sousse dans la lutte contre les minerais de sang en RDC, car aucun mécanisme n'y a été prévu en vue de sanctionner les compagnies ou les pays qui seront impliqués dans le commerce des minerais de sang.
Donc deux questions. Les pays voisins sont impliqués parce que je crois que la loi fait aussi référence aux pays voisins. Donc il n'y a pas que la RDC, il y a aussi les pays voisins qui doivent, si vous importez d'un pays voisin, donc de la région, vous devez faire attention et peut-être être obligé d'informer donc le gendarme de la bourse américaine. Hein. Donc ça tient compte aussi des pays voisins. En ce qui concerne, j'ai oublié le deuxième mécanisme,
La deuxième préoccupation, c'est le Philippe Masséka qui dit que cette loi n'apportera pas grand-chose, car il n'y a pas de mécanisme de mécanismes pour sanctionner les compagnies ou les pays qui seront impliqués dans le commerce des minerais de sang.
Ça c'est bien. Je préfère que vous posiez cette question à Daniel Forti de Global Witness. Je crois que Global Witness est en train de poursuivre leur gouvernement pour un problème similaire, peut-être qu'il pourra vous expliquer. Mais je voudrais revenir ici, comme on vous dit, nous n'avons pas attendu que la loi américaine sorte pour faire quelque chose. Le ministère des Mines est impliqué depuis plusieurs années dans cette mise en place d'une traçabilité des produits depuis le puits jusqu'à l'exportation. Une des dispositions de cette loi dont vous ne parlez pas, c'est obligation au gouvernement américain de produire tous les 6 mois une carte géographique avec la situation, la position des groupes armés. Et nous avons, nous, au niveau de la RDC, nous travaillons déjà dans ce système de cartographie. Et pas plus tard, d'ici quelques jours, nous avons déjà produit ces cartes et qui donnent la situation. Mais comme ce sont des situations qui sont mouvantes, nous sommes en train de mettre en place un mécanisme où on aura accès dans un site web où les gens pourront vérifier la situation sur terrain. Et ça, c'est ça en collaboration avec IPIS, c'est ça en collaboration avec la MONUSCO, c'est ça en collaboration avec le cadastre minier, avec le CESCAM, tous les services qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans la cartographie de la RDC.
Daniel Balint-Kurti, je rappelle également que vous êtes membre de Global Witness, chargé de campagne RDC. Monsieur Paul Mabolia vous a renvoyé la question que je venais de lui poser. Je vais la relire pour une bonne compréhension. C'est Philippe Masséka de Kolwezi au Katanga qui dit « Cette loi ne va pas apporter grand-chose dans la lutte contre les minerais de sang en RDC, car aucun mécanisme n'y a été prévu en vue de sanctionner les compagnies ou les pays qui seront impliqués dans le commerce des minerais de sang. » Il a même rappelé l'action que vous avez déjà menée en justice contre le gouvernement britannique.
Oui, en ce qui concerne la loi américaine, d'abord, dont l'interlocuteur a parlé, le gouvernement américain a 6 mois pour identifier les mesures punitives qu'ils envisagent mettre en place contre les sociétés qui achètent et qui utilisent les minerais de conflit. Alors, il y aura les punitions contre les sociétés. Pas contre les pays, pas par cette loi, mais contre les sociétés. Et M. Mopalia m'a parlé effectivement du fait que on va à la justice contre le gouvernement anglais, parce qu'on trouve que malgré le fait qu'il a fait, comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, un grand participant dans les résolutions visant les minerais de conflit, il n'a rien fait contre les sociétés britanniques qui ont acheté les minerais de conflit. Il y a notamment le cas de la société AMC, qui est le propriétaire du cinquième plus grande raffinerie de l'État du monde, qui selon les preuves que nous on a trouvé, et aussi que les groupes des Nations Unies ont trouvé depuis 2002, qui a acheté des minerais qui finançaient les groupes armés, notamment l'FDLR. Malgré le fait que ces rapports ont été publiés et tout le monde pouvait les voir, il a continué ses relations avec les fournisseurs douteuses. Et malgré le fait que les résolutions disaient que le gouvernement doit sanctionner les acheteurs des minerais de conflit, le gouvernement britannique n'a rien fait.
Mais Daniel, est-ce que pareille action pourrait être envisagée contre les États-Unis, hein, qu'il n'était pas à mesure, hein, de sanctionner ces multinationales dont on sait quand même qu'elles sont soit américaines, soit européennes, et pourvoir en Europe et aux États-Unis à plusieurs emplois, notamment.
Oui, on s'est concentré vraiment sur le cadre de l'ANSA, il y avait un lien clair avec en ce qui concerne la responsabilité du gouvernement britannique. Aux États-Unis, oui, peut-être il y a des cas pareils. Et je crois que une des raisons pour lesquelles les gouvernements occidentaux hésitent à prendre des mesures qu'eux-mêmes ont voté aux Nations Unies, c'est que ils reconnaissent que ces sociétés sont très importantes dans leur économie.
Merci.
L'AMC, c'est une très grande société. Évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement britannique n'a pas montré un souhait de le poursuivre.
Merci. François Zekouye, vous êtes analyste économique et expert en environnement. Deux autres auditeurs, Godefroy Kibangu, Moula Abakana aux USA. Je suis content de la loi prise par le président américain parce qu'elle va contribuer à limiter les dégâts que nous déplorons dans l'exploitation de nos richesses. J'apprécie aussi la démarche de Global Witness qui a porté plainte contre le gouvernement britannique. Maintenant, il reste que nous regardions sur le plan intérieur ceux qui collaborent avec les destructeurs de notre économie et de notre pays pour les décourager aussi. Honorable Diane et Paulin de la province orientale, je suis heureux de la prise de position du gouvernement américain pour sauver la RDC. Néanmoins, je regrette et suis peiné de la position passive de la RDC dans ce domaine. Le changement ne proviendra que de la prise de conscience du gouvernement congolais et de sa population. Sinon, le Congo restera pauvre et les étrangers en tireront toujours bénéfice. François Zekouye.
Oui, je crois que c'est vrai que Global Witness fait du bon travail. Et c'est une bonne chose, effectivement, qu'ils se battent sur effectivement l'effet rétroactif. Parce que quand ils s'attaquent à AMC et à d'autres qui ont acheté les minerais de guerre, sous la période de guerre, c'est un acte légitime et même louable. Mais le problème, c'est que Global Witness eux-mêmes reconnaissent dans un document qu'ils ont adressé un courrier à 200 entreprises et que aucune de ces entreprises ne dispose d'une mesure de contrôle permettant d'empêcher que les minerais de conflit n'entrent dans leur chaîne d'approvisionnement. Il ne revient donc pas facilement à une entreprise qui va acheter sur le marché de savoir d'où vient le produit qu'il achète. Donc, bien évidemment, l'idéal serait que, comme je l'ai dit encore une fois, que l'on aide le gouvernement congolais à rétablir l'autorité de l'État partout où ces minerais sont produits, plutôt que de faire une espèce d'embargo sur ces produits-là. Parce que, autrement, les conséquences sont graves. Je vais, par exemple, parler des conséquences sur les populations. Vous imaginez ces milliers de personnes qui vivent de l'exploitation de la cassiterite, de l'or, dans les zones minières au Congo, qui se retrouveraient inactifs, sans aucun emploi. Ce serait, par contre, une opportunité pour qu'ils soient recrutés dans les zones armées, dans les groupes armés. Donc là, se pose quand même des problèmes qu'il faut interroger. J'ai l'impression que l'approche américaine n'est pas la meilleure. Elle aurait pu, disons, le gouvernement américain aurait pu aider les gouvernements congolais à sécuriser ces postes de résistance pour que nous puissions avoir la paix et que nos minerais soient vendus normalement.
Merci François Zekouye. Permettez que je considère cela comme votre conclusion. Paul Mabolia, conclusion.
Merci. Donc, la loi américaine s'inscrit dans un ensemble d'initiatives. Nous considérons qu'elle s'inscrit dans un cadre de plusieurs initiatives qui sont prises, tant sur le plan international que sur le plan local. Je vous ai dit et je vous répète que sur le plan local, nous avons pris plusieurs initiatives. Autant les centres de négoce, autant les protocoles d'accord, autant sur le plan régional avec la conférence internationale sur la région des Grands Lacs.
Merci. Daniel Balint-Corti, un mot pour conclure.
Je sais que la loi américaine s'est à saluer et on espère que ça va crée la pression pour que les mines à la Congo soient mises sous le contrôle des civils.
Merci, merci. Cette émission est terminée. Merci de votre attention. Mimi Kingu était à la mise en onde. L'équipe rédactionnelle de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Kéline Kouté, Samuel Kachak, ont travaillé sous la supervision de Péri Kipela Mondo. Présentation Alain Hirong Moussini. Retrouvez cette émission sur radiocafé.net. Au revoir. Thank you.